Bien, bonsoir à tous. Voilà, donc en forme d'ouverture de cette, on peut appeler ça une quinzaine culturelle, hein, je crois, donc sur la Haute-Maurienne au fil de l'eau. Donc le sujet proposé ce soir, c'est l'Arc et ses torrents, donc des eaux sauvages aux eaux domestiquées, donc tout un programme. Donc c'est un regard sur cette rivière avec une vision, une perspective largement historique, mais aussi actuelle. Alors l'Arc, l'Arc a une mauvaise réputation, hein, donc, vous voyez, ça commence mal, puisque d'après notre historien Jean Brieuc, il a donné son nom à la vallée de la Maurienne, Maurienne, constituée de deux parties, Maux comme malus, mauvaise. Rienne, ça c'est classique, Rieu, c'est le torrent, donc le mauvais torrent. C'est la vallée de la Maurienne, donc c'est la vallée du mauvais torrent. Donc vous voyez que les choses commencent mal avec l'Arc. Donc pourquoi ce titre? Eh bien pourquoi cette étymologie? C'est évidemment en référence à ces crues violentes et dévastatrices et qui ont marqué l'histoire. Pardon, ça va venir. Qui ont marqué tout au long des siècles l'histoire de la Maurienne. La crue de 57, c'est la crue de référence historique 1957, avec là une photo de Lancelot-Bourg où un hôtel a été emporté, plusieurs bâtiments. L'Arc prend sa source justement au glacier des sources de l'Arc. C'est une photo qui est déjà un petit peu vieille, le glacier est encore rétréci, mais qui se trouve à Bonneval, hein, et va parcourir à peu près 120 km. Donc de Bonneval à Étang, 120 km, donc toute la vallée de la Maurienne, et on peut dire qu'il constitue le trait d'union de la vallée avec un réseau hydrographique relativement simple, c'est-à-dire que tout au long, vous avez une multitude de torrents qui viennent se greffer directement sur le tronc principal. Cette rivière recoupe toutes les zones géologiques de la Maurienne, et on peut dire toutes les zones alpines, les recoupe transversalement. Donc là, vous avez les coupes. Et ce qui fait que tout au long de la vallée, on a une très grande variété de roches et en même temps une grande variété de paysages avec des bassins, avec des défilés, des gorges, comme ici les gorges de l'Essayon. Donc tout ça est évidemment lié d'une part à la géologie et d'autre part à l'histoire des glaciers quaternaires qui descendaient cette vallée de l'Arc. Autre caractère, des caractères qui sont particulièrement montagnards, puisque les eaux sont relativement abondantes pour un bassin versant qui fait 2 000 km² environ, alimenté essentiellement par la pluviométrie, bien entendu, mais aussi par la neige et les glaciers. Et il y a encore une assez forte proportion de glaciers dans le bassin versant de l'Arc, ce qui donne à la rivière, ce qui lui permet d'avoir des hautes eaux de fonte de printemps et d'été particulièrement importantes. Donc on parle de régime niveau glaciaire. Donc là vous avez un des graphes qu'on a reconstitué pour le régime de l'Arc. Vous voyez que les hautes eaux se situent du mois d'avril, mai, jusqu'au mois d'août. Alors que l'étiage, c'est-à-dire les basses eaux, concernent ben, le reste de l'année, depuis l'automne jusqu'au printemps. On a un autre graphique, bien c'est la même chose, mais sur le plan mensuel, et en descendant la vallée, on a depuis Bonneval, Lancelot-Bourg, Saint-Michel-d'Assossat, Saint-Jean-de-Maurienne, vous avez partout le même graphique qui montre ce régime niveau glaciaire qui est l'une des caractéristiques essentielles de l'Arc. Alors, autre caractéristique, c'est évidemment les crues dont je faisais allusion tout à l'heure, les crues violentes et dévastatrices, soit des torrents eux-mêmes, soit de l'Arc lui-même. On peut dire que ces crues les plus violentes, les plus, voilà, donc un immeuble à Modane, toujours la crue de 57 qui a été la plus virulente. Un hydrogramme de crue, celui-ci a été tracé pour la crue de 1993. Vous voyez que c'est un hydrogramme très pointu, ça veut dire que la crue arrive particulièrement vite et en même temps la décrue aussi se passe rapidement. Alors toutes les crues ne sont pas sur ce modèle, sont pas forcément strictement sur ce modèle-là. Parfois l'hydrogramme est plus arrondi, mais d'une manière générale, ils indiquent tous une descente très rapide. Il faut dire que la vague de crue qui commence à Bonneval-sur-Arc parcourt la Maurienne en 10-12 heures à peine pour faire ces 120 km. C'est dire les vitesses qui sont enregistrées dans la vitesse de l'eau, dans le parcours de l'eau. Alors, l'épisode météorologique le plus connu et plutôt le plus virulent, c'est donc l'épisode de Lombarde. Alors, on sait que la Lombarde, c'est en termes météorologiques, c'est ce qu'on appelle les retours d'est, c'est-à-dire c'est de l'air chaud qui provient du Piémont et qui remonte sur les Alpes et qui arrive sur la crête frontière de Bonneval jusqu'à Modane ou même jusqu'à Valloire. Cet air chaud largue des quantités de pluie extraordinaires du côté du Piémont, mais déborde la crête et sur toute cette crête frontière et les premiers versants, on a un effet de fön. C'est important parce que ça veut dire que l'air est plus chaud et si cet épisode arrive lorsque la montagne est encore enneigée, la neige fond jusqu'à au plus haut sommet. Hein, on a des températures positives jusqu'à plus de 4000 mètres. Donc voilà, épisode de Lombarde. Ça nous donne, par exemple, pour 57, la carte d'Isoïps, la carte de précipitation, ça nous a donné 330 mm de pluie en l'espace de 2-3 jours, ce qui est énorme pour notre pays. Voilà un modèle, eh bien on fait comme on peut pour se déplacer dans la rue principale de la gare. Donc, autre caractéristique, les pentes fortes, ça c'est le torrent de l'Anvers à Solières, les pentes fortes donnent une énergie remarquable à ces rivières, à ces torrents, d'où les transports solides. Des transports solides qui peuvent être tout à fait stupéfiants. Vous voyez là la crue toujours de 93. Dans la région de Saint-Michel, les blocs qui ont été apportés sur la route nationale. Voilà, donc on a des transports solides tout à fait exceptionnels. Alors jusqu'au 19e siècle, dans la Basse-Vallée, l'arc, quand je dis la Basse-Vallée, c'est jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne à peu près, l'arc divague sur le fond de la vallée, divague sur son talweg. Là, vous avez une carte reconstituée de la région d'Aiguebelle où est-on, où le fond de vallée mesure 2 km. Et vous voyez qu'en noir, les sinuosités de la rivière, qui ont été reconstituées d'après une carte de l'époque, donc de 1781, très exactement. Et donc, on a une divagation très large de la rivière sur tout le fond de la vallée. C'est ce qu'on appelle une physionomie de tressage, des tresses, hein, avec un lit totalement instable. Il ne peut pas y avoir de pont, hein, puisque à chaque crue et chaque printemps, la rivière change de lit, et divague sur le fond de vallée. Il ne peut pas y avoir de pont, si bien que jusque dans les années 1800, la route est installée, donc la grande route d'Italie, qui pourtant est très célèbre et très utilisée hein, depuis les Carolingiens, la route d'Italie passe sur les versants et s'accroche à flanc de coteau et ne peut pas s'installer dans la vallée. Une autre particularité, toutes ces communes marquées par les divagations de l'arc sont sujets à une forte insalubrité Au paludisme, on est étonné aujourd'hui de savoir que jusqu'au XIXe siècle, il y avait du paludisme très répandu dans ces communes de la Basse-Maurienne. Et on voit bien que la démographie en souffre énormément. Hein, l'espérance de vie en Basse-Maurienne était bien moindre que ici, chez nous, en Haute-Maurienne. Alors, jusque dans les années 1800, il n'y a donc pas de grands aménagements de la rivière. Il y a eu quelques morceaux de digues construits sur Saint-Jean-de-Maurienne, par exemple, à l'initiative des évêques de Maurienne, mais c'est tout. Et on peut considérer que vers 1800, on a un état de référence à peu près naturel de l'Arc et de ses torrents. Donc, vont arriver 2 siècles de transformation profonde, de grands aménagements. Essentiellement sous trois rubriques. La première, c'est les endiguements. La deuxième, c'est la correction torrentielle, la correction des torrents. Et la troisième, c'est évidemment la houille blanche, l'hydroélectricité. Alors, les endiguements, voilà, ça c'était quelques illustrations de ces situations de tressage et de divagation. Ça, c'est une carte magnifique qui a été faite tout le long de la Maurienne par l'ingénieur Marchetti. On est à l'époque sarde, 1781-1782. Et justement, c'était dans l'optique de reconstruire la route, ce que les Sardes n'ont pas vraiment fait, puisqu'ils n'en avaient pas vraiment les moyens. Voilà un peu le paysage que devait être. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Bessan en 93. Mais voilà le paysage que devait être le fond de vallée à cette époque. Voilà, avec des crues qui charrient énormément de bois, hein, bien sûr. Voilà. Donc, 2 siècles d'aménagement et de maîtrise des eaux. Alors, la route, pardon, la rivière va être endiguée en plusieurs étapes, jusqu'à nos jours d'ailleurs. Le but étant évidemment de protéger les voies de circulation, de protéger d'abord la nationale 6, et c'est Napoléon qui commence en Basse-Maurienne, dans la Combe de Savoie et en Basse-Maurienne, à construire la route. D'après lui, il faut que la route suive le Thalweg, elle sera plus rectiligne et de pente plus modérée au lieu de sauter sur le versant. Et donc, on endigue l'arc pour protéger cette route nationale. Pratiquement, alors on n'a pas fait tout d'un coup, bien entendu, mais par petits morceaux. Et c'est donc Napoléon qui lance tout ça. Les Sardes vont continuer pendant les années suivantes, pendant la restauration sarde. Puis il va falloir protéger la voie ferrée. Bon, voilà donc autour des éléments de digue sarde que l'on a mis à jour au jour lorsqu'on a construit l'autoroute en 1990-2000. On a toutes sortes de croquis qui montrent que cette technique des digues était bien possédée, puisque vous voyez des pieux qui vont profondément sous la terre. Donc, ça, une bonne technique. Et puis, alors, par la suite, à chaque grande crue, et notamment après 1920, après une grande crue aussi, après 1980, 1957, 93, à chaque grande crue, on rajoute des éléments de digue, des kilomètres de digue. Voilà, à Lens-le-Bourg, justement, ben, à côté de l'auditorium, hein, après 57, on construit cette digue d'un genre un peu spécial, puisqu'elle est recouverte de bitume, qui lui donne une certaine caractère souple et imperméable. Donc, et la dernière grande période d'endiguement, c'est l'autoroute qui va rajouter 40 km de digues, essentiellement en aval de Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc, au total, si vous voulez, on a aujourd'hui une rivière qui est quasiment corsetée, endiguée sur l'essentiel de son parcours, sauf peut-être un peu moins en Haute-Maurienne, vers Bessan, par exemple. Donc voilà pour les endiguements successifs. Alors, associé à ces endiguements, on va assister à une opération tout à fait étonnant, qui va durer aussi un siècle, que l'on appelle les colmatages. Parce qu'une fois que la rivière est endiguée, elle est coincée contre la route nationale ou la voie ferrée, eh bien, on peut récupérer toute la plaine de divagation. Ça, c'est le paysage de Baroucha à Aigbel. Ça correspond à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez des parcelles agricoles. Eh bien, résulte d'un énorme travail de colmatage qui a duré des décennies. Et voilà comment on s'y prenait. Vous voyez l'arc représenté ici, qui descend de la gauche vers la droite. Et on construisait un canal d'amenée fait pour détourner les eaux de l'arc, dans des casiers préalablement tracés, un peu comme si vous avez tous vu des paysages de rizières, ben c'est exactement ça. Donc dans des casiers, on laisse s'écouler l'eau de l'arc lentement. Cette eau, à partir du mois de mai-juin, est complètement saturée de limons, essentiellement les limons qui proviennent de la vallée de l'Arvan. Hein, c'est un torrent, un gros torrent, qui est toujours noir, hein, vous pouvez le voir en passant à Saint-Jean-de-Maurienne. Et donc, les limons se déposaient dans ces casiers. En moyenne, ils s'en déposaient une dizaine de centimètres par an. Donc, on répétait l'opération une dizaine d'années, et à la fin, on avait un sol de 80 cm à 1 mètre d'épaisseur, labourable, et qui devenait un sol agricole qui recouvrait les galets et les bancs de sable de l'arc du temps des divagations. Donc ces colmatages ont été pratiqués sur toute la basse Maurienne. Je vous montre là à la confluence entre l'Isère, ça c'est l'Isère proprement dit, mais à la confluence entre l'Isère et l'arc, voilà le paysage en bleu, l'espace de divagation avant l'endiguement, et en rouge, ce que cette rivière est devenue après les années 1830-1840, de par le travail essentiellement ici des sables. Donc vous voyez qu'on a changé complètement de paysage et de fonctionnement de la rivière. À la confluence de l'Arc aujourd'hui, confluence de l'Arc et de l'Isère, vous reconnaissez là-bas dans le fond la prison des temps, pour situer les lieux, eh bien, on a un parcellaire agricole où, évidemment, on ne reconnaît plus l'espace de divagation. Mais lorsque on examine les photos, on voit que le parcellaire agricole aujourd'hui correspond encore très exactement au dessin des casiers, je vous ai montré tout à l'heure, de l'époque. Donc, un énorme chantier, voilà, dans la plaine des Urtières, voilà l'arc en 1730, en 1780, et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est un lit extrêmement simple et rectiligne, quasiment. Eh bien, là, c'est une autre photo de la plaine des Urtières, donc Saint-Georges, Saint-Alban des Urtières. Vous reconnaissez l'arc, la Nationale 6. De l'autre côté, à droite, les parcelles agricoles qui ont été conquises sur les espaces de divagation. Et à gauche, c'est juste avant la construction de l'autoroute. C'était ce qui restait, qui n'avait pas été transformé en parcelles agricoles, mais l'autoroute va en grignoter une bonne partie. Donc voilà, endiguement et colmatage. Deuxième grande intervention humaine, la correction torrentielle. Alors tout a commencé avec les grandes crues du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, toutes les grandes crues qui ont marqué le milieu du 19e siècle, 1850-1860. Et on attribuait ces crues qui ont dévasté un peu les villes, Lyon, Grenoble, on attribuait ces crues aux torrents de montagne qui, du fait du surpâturage ou de la surexploitation agricole, connaissaient des crues violentes. Donc c'était ça la philosophie de l'époque. Donc on s'est dit, ben, il faut restaurer les torrents, il faut les corriger, et on avait la foi dans cette politique. Ça a commencé par la création du RTM, Restauration des Terrains de Montagne, puis les séries domaniales, c'est-à-dire que L'État a pu exproprier les communes, et certaines s'en souviennent encore, pour pouvoir faire des corrections torrentielles et du reboisement. Donc ça, c'est dans le Saint-Antoine, Modane. Mais enfin, ce n'est pas ce qui manque. Hein. Les torrents, tous les torrents de notre région ont été marqués par cette énorme entreprise qui a duré à peu près, on va dire, de 1870 jusqu'à la guerre de 14 essentiellement, en mobilisant de la main-d'œuvre locale en très grosse quantité. Donc, dans le bassin amont des torrents, reboisement et correction torrentielle avec des seuils, pardon, avec des ouvrages que vous avez vus précédemment. Et sur le cône de déjection, ben, il fallait aussi maintenir le torrent, le chenaliser, comme ici à Saint-Julien ou Saint-Martin-la-Porte, c'est pas les exemples qui manquent, où on a canalisé le torrent en construisant toute une série de petits seuils, comme vous le voyez sur cette photo. Voilà, donc, autre exemple de chenalisation des torrents. La dernière phase a été marquée, la dernière phase c'est 1990-2000, par le développement des plages de dépôt. On a trouvé que c'était une solution de protection importante. Celle-ci, c'est la plus grande de Maurienne, elle est capable d'absorber 20 000 mètres cubes. C'est sur le Claret à Saint-Julien. Bon, on verra après qu'il y a quelques ennuis qui sont apparus petit à petit, quelques contraintes qu'on n'avait pas soupçonnées. Donc, correction torrentielle. Si je fais le bilan, évidemment, il y a eu un énorme travail, comme je vous l'ai dit, pendant un demi-siècle. Le résultat est très variable. Certains torrents se sont effectivement assagis, on va dire. D'autres, comme le torrent de Solières ou le Pousset, qui nous embête bien dans cette vallée de la Maurienne, j'y reviendrai tout à l'heure, sont restés tout à fait intacts. Ils fonctionnent comme. C'est-à-dire que les travaux RTM n'ont pas abouti, ont été inefficaces. Et on comprend pourquoi quand on connaît le terrain. Ces torrents continuent à poser de gros problèmes, surtout à leur confluence avec l'Arc. Troisième rubrique, troisième gros changement, l'hydroélectricité, peut-être celle qui a le plus de conséquences sur la vie de la Maurienne, la révolution de la houille blanche. Alors, ça commence dans les années. Bah, vous connaissez un peu l'histoire de l'électricité dans les années 1870-1880, où on a commencé à exploiter. Il existait déjà des industries, mais qui n'utilisaient que la force motrice des torrents. Donc on va transformer cette force motrice en électricité. Donc sur un certain nombre de torrents de la Maurienne, par exemple la Valoirette, hein, qui faisait tourner l'usine de Calypso. Mais rapidement, le problème des torrents. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, surtout en hiver, il n'y a même pas d'eau du tout. Donc on va essayer de construire des barrages sur l'Arc. Or, ce n'était pas une petite affaire à l'époque. Les premiers barrages sur l'Arc ont été construits en 1890. Il fallait maîtriser certaines techniques. Alors par exemple, là, c'est le barrage de Bramant. Alors celui-là est un peu plus. C'est juste après la guerre de 14. Mais la plupart ont été construits entre 1890 et 1920. Une dizaine de barrages sur l'Arc, depuis Bramant jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, jusqu'à Saint-Michel-de-Maurienne. Donc une espèce d'escalier, hein, d'une dizaine de barrages. Tout ça lié évidemment à l'industrialisation. Barrage de Bramant permettant de faire tourner cette centrale qui existe toujours, la photo est actuelle, à Avrieux. Donc vous voyez les gros tubes qui arrivent juste au-dessus. Alors, on est toujours dans. Quand je parlais d'industrialisation, on ne parle pas encore d'EDF, ce sont les entreprises privées, essentiellement l'ancêtre de Pechiney, qui avait ses usines d'aluminium essentiellement. Le premier barrage de montagne, c'est Bissorte, en 1935, puisqu'il fallait résoudre ce problème de manque d'eau en hiver. Bon, il fallait stocker pour pouvoir faire tourner les usines toute l'année. Donc le premier barrage, c'est Bissorte, 1935, qui est construit par Pechiney, bien sûr. Voilà donc la centrale de Bissorte. Je ne parle pas de Super Bissorte, qui est une centrale souterraine et qui est vraiment la dernière grande réalisation de l'hydroélectricité armoricaine. Ça, c'est la centrale de Bissorte liée au premier barrage de montagne. Les barrages d'Aussoy, plan d'amont, plan d'aval, dans les années 1950. Donc voilà la centrale d'Aussoy qui se trouve, on appelle la centrale d'Aussoy parce qu'elle turbine l'eau du plan d'aval, mais qui se trouve à Avrieux. Et je rappelle que cette centrale a été liée aussi à la soufflerie de l'Onera, puisque le barrage du plan d'aval permet de faire tourner les deux, hein, à la fois la centrale d'Aussoy et à la fois la soufflerie Onera. Le barrage du Montcenis, c'est toute l'époque de 1970, tout un immense aménagement intégré. Vous connaissez. Et en même temps, pour alimenter ces barrages de montagne, que ce soit le plan d'amont, plan d'aval ou le barrage du Montcenis, on a capté tous les torrents d'altitude, à environ 2000 mètres d'altitude. Donc voilà le torrent qui s'engouffre dans une prise d'eau. C'est à Bessan, dans la vallée d'Avérolles. Donc tous ces torrents ont été court-circuités pour alimenter, pour remplir les grands barrages. Ces aménagements sont devenus de plus en plus intégrés, si l'on peut dire. Vous voyez par exemple ici un schéma qui vous montre à gauche le plan d'aval, plan d'amont, plan d'aval, donc le barrage d'Aussoy, et qui communique avec le Montcenis en jouant sur, on peut dire pour simplifier, les vases communicants. Et selon les périodes par du pompage, les deux étant à des altitudes assez équivalentes, si bien que voilà, on a fait un aménagement intégré entre ces deux complexes. Donc des choses assez étonnantes. En même temps, dans toute la vallée de la Maurienne, on a fait disparaître la plupart, sauf un ou deux, des vieux barrages que je montrais tout à l'heure qui dataient d'avant la guerre de 14, pour les remplacer par trois barrages plus importants à Saint-Martin-la-Porte, Pont des Chèvres, Le Fresnay, donc des barrages un peu plus importants. Et voilà ce que ça nous donne en termes de graphique. Tous ces gros ronds, ce sont les principales complexes hydroélectriques, principales centrales de la Maurienne. Et on y a rajouté aussi au fil des décennies des grandes dérivations. À droite, là-haut, l'arc est dérivé vers Tignes, vers le barrage de Tignes, donc dans l'Isère. À l'échaillon, ici à Saint-Jean-de-Maurienne, l'arc est dérivé vers le Chélat. Et à Randan, c'est l'arc qui reçoit l'Isère. Autrement dit, c'est devenu d'une complexité redoutable et une truite n'y retrouverait pas ses petits. Alors, donc voilà on va dire une conception très large et complètement intégrée de l'hydroélectricité. La dernière en date des réalisations hydroélectriques, c'est la station de transfert d'énergie par pompage de Super Bissorte. C'est-à-dire que pendant la nuit, on remonte l'eau du barrage du Pont des Chèvres avec du courant en heure creuse et qu'on turbine au moment de pointe. C'est la seule grande centrale qu'on appelle les steppes de la Maurienne. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui a commencé, surtout encore à l'état de projet, mais il en existe quelques-unes, de micro-centrales qui échappent au monopole d'EDF. Et que les communes peuvent construire. Et donc, j'ai vu dans le programme, vous allez visiter la microcentrale de Fourneau. Et il y a un projet à Aussoy, il y a un projet, c'est plus qu'un projet, à Brabant qui va se faire dans les mois qui viennent. Voilà. Donc, tous ces aménagements hydroélectriques font de la Maurienne, on va dire, la vallée alpine la plus équipée, hein, en France. Et évidemment, on se doute bien qu'il y a des modifications massives. Des caractères proprement hydrologiques, qui s'en suivent, on peut dire qu'on a construit une rivière complètement artificialisée. Alors, évidemment, on a réalisé de très gros progrès dans la protection des biens et des personnes vis-à-vis des crues. En même temps, on a assuré pendant un siècle la prospérité économique de la Maurienne avec l'industrie, notamment l'industrie de l'aluminium, les transports. Et la Maurienne a pu garder ses habitants au XIXe siècle pendant que de nombreuses vallées les perdaient. Mais donc les régimes hydrologiques ont été très modifiés, profondément modifiés. Bon, le graphique est un peu compliqué. En gros, ce qui est arrivé, c'est que en régime ordinaire, en régime habituel, aujourd'hui, sur 80% de son cours, l'Arc n'a plus dans son lit que 10 ou 20% de l'eau. Donc, autrement dit, en régime ordinaire, les débits sont extrêmement amaigris puisque tout le reste passe dans des tuyaux. Ça, c'est une première chose. Deuxième caractère, c'est qu'on a supprimé de ce fait toutes les hautes eaux de printemps et d'été. Donc, vous vous rappelez le graphique de tout à l'heure du régime ordinaire de la rivière. Eh bien, il n'y a plus ces pointes en été ou au printemps, puisque l'eau est stockée à ce moment-là dans les barrages. Donc on a une modification complète des régimes ordinaires. Alors voilà, par exemple, je vous ai mis un graphique, c'est le torrent d'Aveyrolles qui est capté pour être conduit dont les débits sont conduits dans le barrage du Mont-Cenis. Donc, vous voyez le régime habituel, plutôt naturel, qui est marqué par la pointe de juillet-août d'Aveyrolles. Et aujourd'hui, il ne reste plus que ce qui est marqué là par les petits points, hein, c'est-à-dire qu'il ne reste dans le torrent que quelque chose comme 0,05 mètres cubes seconde. Tout le reste est capté dans le Mont-Cenis. Donc on a complètement transformé le fonctionnement des torrents. Alors les effets, alors on peut se poser la question, quels sont les effets de tous ces aménagements hydroélectriques sur les crues? Eh bien sur les petites crues, les petites et moyennes crues, on va dire jusqu'à la décennale, jusqu'à la crue décennale, qui est susceptible de se reproduire une fois tous les 10 ans. Les débits sont très amoindris, donc les crues sont moins graves, voire même n'existent plus, les crues annuelles n'existent plus. Bon. Mais sur les grandes crues, il n'y a toujours pas de changement, puisque on n'a pas en Maurienne, comme on a en Tarentaise, le grand barrage de Tignes en Tarentaise, coupe, stocke l'Isère. Et pratiquement les coupes lombardes qui arrivent en Haute-Tarentaise comme en Haute-Maurienne sont emmagasinées dans le barrage de Tignes. Donc autrement dit, toute la vallée en aval du barrage de Tignes est largement protégée et depuis les années 50, il n'y a plus de crues dévastatrices en aval. Ce n'est pas le cas en Maurienne puisque le barrage de Mont-Cenis se trouve sur le côté, les barrages d'eau sont aussi, d'ailleurs sont trop petits, le barrage de Bissorte aussi, si bien que ces grands aménagements hydroélectriques ne sont pas capables d'emmagasiner, excusez-moi, on va y arriver, sont pas capables d'emmagasiner ce surplus d'eau des moments de crue. Alors, autrement dit, il n'y a pas d'effet sur les moyennes ou les grandes crues. Alors, deuxième aspect, impact sur les. Donc, voilà le Modane en 2008. On a connu là toute une série de crues. Il n'y en avait pas eu entre 1957 et 93, pendant 36 ans, il n'y avait pas eu de crues. Et puis tout d'un coup, on a toute une série en 93, 94, 95, 2000, 2008, 2010. Donc il y a une recrudescence particulière des crues. Alors, effet, évidemment, Puisque l'hydrologie a été complètement bouleversée, on va dire, eh bien, il y a des impacts sur les transports solides. Le transit des sédiments, hein, le long de l'Arc se trouve segmenté par tous ces barrages de fond de vallée, barrages au fil de l'eau, qui se stockent dans les réservoirs, donc au Pont des Chèvres, Saint-Martin-la-Porte. Là, on a un alluvionnement très important. Et par ailleurs, là où l'Arc n'a plus de débit ou de très faible débit, eh bien, on a une tendance à l'engravement, où il va apparaître des bancs de sable un petit peu partout, des bancs de gravier. Donc, on a modifié complètement la capacité de transport et d'évacuation des matériaux de l'Arc. Et alors, le problème se pose surtout aux confluences torrentielles. Voilà, donc, ça, c'est le pont des Chèvres, peu importe. Confluence torrentielle. Prenons l'exemple du torrent de Solière, Solière-l'Envers. Le torrent arrive dans l'Arc. Jusqu'à ce siècle, on peut dire que les hautes eaux de printemps et d'été reprenaient l'essentiel des matériaux que lui amène le torrent et les répartissaient en bas dans la vallée. Depuis que l'Arc n'a plus qu'un faible débit à Solière, l'Arc, en moyenne, n'a plus un débit que de 30% à peu près de son débit naturel. Ben, évidemment, les matériaux du torrent de l'Envers engorgent le Lys et on a un réel risque d'embâcle, c'est-à-dire de bouchon. Hein. Un autre torrent nous cause des soucis permanents. C'est le torrent du Pousset en amont de Saint-Michel. Vous voyez là une lave qui arrive dans un chenal du torrent, une lave torrentielle. Vous voyez de quel matériau c'est constitué. C'est du matériau très grossier. Il faut donc avoir du courant dans l'arc pour pouvoir emporter tout ça. Et ça nous donne, voilà, donc un cône de déjection du Pousset qui a une tendance permanente à obstruer l'arc. Et donc, de temps en temps, l'arc est complètement bouché. Il faut intervenir par des curages on va dire, mécaniques importants. Voilà, donc on voit bien que la modification des régimes hydrologiques a entraîné une modification aussi des transports solides pratiquement tout le long de la vallée. EDF réalise des chasses annuelles. Il vient d'en avoir une le 23 juin, mais c'est essentiellement pour nettoyer les barrages au fil de l'eau. Et de toute façon, ces chasses annuelles durent une journée, même pas 10 heures. Elles n'ont un débit à Saint-Michel que de 130 mètres cubes secondes, alors que les hautes eaux de printemps et d'été dépassaient largement les 200 mètres cubes secondes et duraient pendant plusieurs mois. Donc, vous voyez la différence de système que l'on a créé. Bon, ça, c'est en aval de Solière. Par ailleurs, à quelques endroits, par exemple, là où les centrales rejettent, c'est ce qu'on appelle les restitutions, rejettent leur débit turbiné. Il peut y avoir là des débits artificiellement gonflés pendant une partie de l'année. C'est le cas par exemple à Randan, et où l'arc a tendance, à l'inverse de ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de l'engravement et de l'exhaussement du Lys, là on a des phénomènes d'incision, de creusement, et qui se développent sur une plaine agricole. Et évidemment, les agriculteurs sont très contents de ce système qu'on n'est pas arrivé à résoudre parce que il faudrait construire des digues et ça n'a plus de rapport avec l'intérêt que représente la profession agricole. Donc voilà, des phénomènes d'incision marqués mais locaux. Ces phénomènes d'incision, je rappelle qu'ils ont été aussi aggravés par des prélèvements massifs de matériaux qui ont eu lieu jusque dans les années 2000, et qui était mal, comment dire, qui n'était pas géré par l'administration. Et dès que vous prenez du matériel, des matériaux, du gravier, des galets dans le lit de l'arc, dans le lit d'une rivière, hein, évidemment, on accentue le phénomène d'incision et de ce qu'on appelle le dépavage, c'est-à-dire on enlève les gros blocs qui protégeaient le plancher, le lit de la rivière. Alors, quelle gestion pour aujourd'hui de tout ce système, de tout ce réseau hydrographique arc et affluent? Le souci principal, évidemment, reste la protection contre les crues. Ça reste notre centre d'intérêt. Alors, jusque-là, on avait quand même confiance un peu dans nos saints. Et c'est le petit oratoire de Solière, Saint-Marc, protégez-nous du torrent. Bon, on ne se satisfait plus complètement de ces invocations à nos saints. Et donc, la protection contre l'inondation, les crues reste d'actualité. La compétence aujourd'hui est passée en 2019 des communes aux communautés de communes. Dans le cadre d'une loi dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle la loi GEMAPI, mais en Maurienne, on est allé plus loin. Les communautés de communes l'ont transférée au syndicat de pays de Maurienne, et qui gère l'ensemble de la vallée. Et justement, pour donner une espèce de cohérence, je vous ai montré que les crues commençaient à Bonneval et se terminaient dans l'Isère, à Étang ou à Ibel ou à Étang. Il s'agissait donc de donner une cohérence à cette gestion, et on a trouvé ce système, on a trouvé cette formule de pouvoir confier la GEMAPI au syndicat de Pays de Maurienne, et c'est ce que l'on a fait l'année dernière. Alors, aujourd'hui, ça fonctionne avec une équipe. Il y a quatre jeunes ingénieurs qui forment le pôle rivière, et il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et donc, tout un programme d'action sur toute la Maurienne qui concerne, par exemple, des curages, des interventions, on va dire, d'urgence. Hein, parfois, il ne faut pas attendre pour dégager le lit de l'arc. Des gros programmes, comme ici, sur l'Arcelle. Hein, c'est donc le torrent qui descend, qui arrive à Lans-le-Villard, pas loin d'ici, et que l'on a qui a connu des crues très coûteuses pour la collectivité en 2015, notamment déjà en 87 puis en 2015. Et donc on a fait passer le torrent là, sous la nationale, sous la départementale, et pour protéger aussi la station, vous voyez la gare de départ du télécabine tout de suite à côté. Donc un énorme travail qui a été engagé par sous maîtrise d'ouvrage du SPM, et on continue aujourd'hui un petit peu plus haut sur l'Arcelle, mais les exemples ne manquent pas. Un gros projet sur le torrent du Charmey, c'est un modèle fourneau, qui a besoin aussi de restaurer tous ces seuils qui ont été faits au début du siècle et qui, au début du, oui c'est ça, dans les années 1900-1914. Qu'il faut le reprendre entièrement. J'ai déjà dit que dans les confluences torrentielles, il fallait souvent intervenir avec du gros matériel, comme ici. Voilà. Et puis, des programmes liés aussi à la gestion de la végétation, parce que le lit, en s'exhaussant, en s'engravant, dégage des bancs sur lesquels les arbres poussent, et donc il faut la gérer, soit la couper, soit en tout cas l'élaguer. Et dans toute la basse Maurienne, à la fois sur les torrents et sur l'arc, des programmes se mettent en route de gestion de la végétation, parce que sinon, vous avez ce phénomène là qui va se produire. Ça, c'était le pont du Villaron, il y a quelques années, où les arbres et les branches se collent contre la culée du pont ou les piles du pont. Et évidemment, ce n'est pas bon pour la stabilité des ponts. Un programme aussi assez nouveau, mais vous en entendez parler maintenant facilement, c'est les zones humides. Les zones humides, Elles ont deux rôles, elles ont un rôle de biodiversité, ça je n'insiste pas, elles ont aussi un rôle hydraulique puisqu'elles servent d'éponge, hein, qui emmagasinent les eaux pluviales, les eaux de ruissellement et qui les relâchent petit à petit. Bon, autant la biodiversité, c'est une vraie réalité en Maurienne, autant le rôle hydraulique, je n'y crois pas beaucoup parce qu'on a des zones humides qui sont relativement restreintes. Donc, il ne faut pas non plus accorder beaucoup d'importance sur la partie hydraulique, mais quand même. Mais quand même. Donc, il y a un programme là, à Termignon, hein, près du parc Acrobranche. Il y a une belle zone humide là, qui va être mise en valeur. Il pourrait y avoir aussi le long de la nationale, dans les anciens méandres de l'Arc, notamment à côté de la baraque forestière, de la maison forestière. Donc, on a des programmes à venir sur ce domaine-là. Alors, plus largement, et pour terminer, la multiplication des usages de l'eau pose d'autres questions sur le réseau hydrographique, que je ne traiterai pas ici, mais c'est simplement pour dire que ça nous ramène aussi à une gestion plus globale de l'eau. Neige de culture, pour la neige de culture, on est bien doté en Maurienne. Là, j'avais fait une carte qui montre d'une part les aménagements hydroélectriques, d'autre part la répartition des stations. Bon, ben nous, on a la chance en Haute-Maurienne d'avoir toutes nos stations qui peuvent être servies en neige de culture avec des contrats de fourniture de l'eau d'EDF, ce qui évite d'avoir à construire de grandes retenues collinaires comme on a pu le faire ailleurs. Bon, donc là, on a un système qui marche bien à Valsonny, La Norma, Aussoy, Valfréjus. Oui, la seule exception, c'est cette petite retenue collinaire qui vient d'être construite à Aussoy l'année dernière, il y a 2 ans. Mais pour compléter, c'est une retenue collinaire de 16 000 mètres cubes, c'est-à-dire petite, par rapport aux grandes qu'on connaît ailleurs dans les Alpes. C'est simplement pour améliorer le système. Voilà, bon, je ne rentre pas dans les détails. Alors, neige de culture, irrigation agricole, c'est un autre volet qui lui aussi est en rapport, on va dire, avec le réseau de l'Arc, puisque on va chercher les torrents ou bien l'eau dans les barrages EDF. Donc, irrigation agricole, il y a eu des gros programmes dans les années 80, et cette année, enfin depuis 2 ou 3 ans, on a étendu ces programmes à toute la Haute-Maurienne. Donc, belle réalisation. On peut dire aussi, évoquer le volet ludique avec le canyoning en aval de l'Écault. Bon, il n'y a pas énormément de choses parce que, comme l'Arc a des débits très affaiblis, il est difficile d'envisager, par exemple, le développement du kayak. Ça s'était fait à une certaine époque et puis, bon, ça n'a pas tenu. Ça, c'est le barrage de l'Écault qui permet de réguler les débits en aval pour assurer la sécurité du canyoning dans la petite gorge qui se trouve à l'aval de ce barrage, donc à Bonneval. Voilà, enfin, on peut dire la valorisation touristique de nos sites hydroélectriques, de notre patrimoine industriel, prend une place de plus en plus importante. Il s'est fait depuis l'année dernière un parcours, un itinéraire facile, donc une mise en valeur touristique de tout cet itinéraire hydroélectrique. Après la Tarentaise, c'était le tour de la Maurienne. Et vous voyez ici ou là des grandes photos qui illustrent cet itinéraire touristique. On peut dire qu'il y a une vraie valeur, une vraie mise en valeur de ce riche patrimoine. Donc, pour conclure, barrage d'Aussoy, avant c'était le barrage de Montceny. Et pour conclure, donc, vous voyez la place de l'eau à travers cet exemple de l'Arc, la place de l'eau dans notre vallée. Avec toutes ces contraintes, mais aussi ses atouts, on peut retenir que l'hydroélectricité a assuré la prospérité, je l'ai dit tout à l'heure, la prospérité de la vallée, couplée à l'industrialisation, pendant plus d'un siècle. Et puis, donc, elle a permis, je me répète, de retenir la population montréalaise dans sa vallée. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience et une forte mobilisation pour une gestion globale, comme j'ai tenté de le montrer à la fin, une gestion globale de l'eau dans tous ces états, comme l'animation que on vous propose dans le programme qui vous a été énoncé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Alors, je suis prêt à répondre à quelques questions, enfin, toutes les questions que vous voulez, si je sais faire. Allons-y. Y a-t-il des questions? Excusez-moi, est-ce que vous pensez que. Pardon?
Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette eau viendra à manquer?
Ah. Pour avoir suivi et regardé d'assez de près la pluviométrie en Maurienne, elle n'a quasiment pas changé depuis 50, 70 ans. C'est-à-dire qu'on a nos premières mesures de pluie datent des années 35-36. Ils ont été faits par les eaux et forêts. Et dans le temps, donc ça fait déjà un certain recul hein, depuis 1936, dans le temps, on voit qu'il y a des oscillations permanentes d'une année à l'autre, mais quand on trace la tendance, elle est horizontale. C'est-à-dire que en moyenne, la pluviométrie, alors je parle de ma commune, puisque celle-là je l'ai étudiée de près, il y avait 700 mm par an, ce qui est assez peu, hein, 700 mm par an à Ossau à 1500 mètres d'altitude, eh bien c'était 700 mm en 1936 et aujourd'hui c'est toujours 700 mm. Donc, a priori, là il n'y a pas beaucoup de changement, chez nous en tout cas. Après, l'autre problème, c'est que la réalité, c'est l'augmentation des températures. Et avec l'augmentation des températures, ben, on évapore un peu plus. Et donc, il pourrait y avoir une baisse dans ce sens-là. Mais c'est quand même marginal. On n'est pas pour l'instant extrêmement concerné par cette évolution dont on parle partout, hein, je le reconnais, mais chez nous, on n'est pas tellement concerné. Je ne sais pas si j'étais clair. Il y a un autre phénomène aussi, la limite pluie-neige remonte, donc le stock de neige disponible pour l'eau qui alimente notre régime, comme je l'ai montré tout à l'heure, ce stock de neige a tendance à diminuer, ça c'est une évidence, ce qui fait que les hautes eaux de printemps sont quand même et d'été sont quand même un peu moins fortes qu'autrefois. Voilà, donc on a comme ça des évolutions, mais qui ne sont pas encore très nettes. Autant que pour les températures, là, il n'y a pas photo, on sait très bien que la limite pluie-neige et les températures remontent, mais pour la pluviométrie, on est encore dans le doute. Encore d'autres inquiétudes?
Oui. Enfin, c'est pas une inquiétude, c'est plus une remarque.
Oui.
Merci. Vous disiez tout à l'heure que les aménagements hydroélectriques ont modifié le régime des crues, et en gros, les crues faibles à moyenne ont quasiment disparu du paysage. Et c'est-à-dire que quand une crue arrive, elle est forcément forte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la population, les élus, oublient le fait, parce que ça arrive plus assez souvent, que l'Arc peut rentrer en crue? Le fait d'éliminer artificiellement ces petites crues.
Oui, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas prêt d'oublier parce que, comme je vous l'ai dit, votre remarque était très pertinente pour la période entre 1957, la grande crue historique, et 93. Parce que là, il y a eu vraiment un phénomène mental qui fait que pendant 36 ans, il n'y a pas eu la moindre crue, mais vraiment rien du tout. C'est la période où se sont continués de s'aménager les barrages. Et la population montréalaise a fini par croire, mais les élus, y compris les élus, que bah, finalement, les équipements hydroélectriques pouvaient les rassurer complètement. Puis arrive la crue de 93, qui était une crue d'une fréquence trentennale ou quarantennale, quelque chose comme ça. Qui a bien remis les choses en place. Et après, ça n'a pas arrêté. Je veux dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 années de suite, 93, 94, 95, il y a eu des hauteurs de crues de fréquence trentennale ou quarantennale. 2008, 2010. Donc, la mémoire est très bien entretenue par la nature, si je puis dire. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir cette tentation, puisque les crues annuelles, les crues bisannuelles, quinquennales ont quasiment disparu.
Merci.
Voilà. Après.
Les crues de 1920, 93, 94, 95, elles ont eu lieu au mois de septembre.
Oui.
Qu'est-ce qui peut
Expliquer.
expliquer les crues du mois de septembre? Parce que celle de 57, au mois de
Parce que
juin, ça s'explique.
les retours d'Est, à l'échelle nationale, européenne, les retours d'Est sont les plus fréquents au mois de septembre, puisque cet air chaud parvient de la Méditerranée, et c'est donc le moment où la Méditerranée est la plus chaude, à la fin de l'été. Donc vous avez là des phénomènes de masse d'air chaude et humide, et le retour d'Est, statistiquement, se produit au mois de septembre. Alors ce qui est arrivé, alors la question c'est, donc ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année, enfin pas en hiver, mais ça peut aussi arriver au printemps, mais la question de la crue de 57, pourquoi finalement c'est la crue historique, c'est aussi évidemment un retour d'Est, mais il est arrivé au mois de juin, à une période où la montagne était complètement enneigée, et donc s'est rajouté l'épisode pluviométrique. À l'épisode pluviométrique s'est rajouté la fonte des neiges, la fonte de la neige très rapide. C'est ce qui explique probablement le caractère tout à fait exceptionnel de cette crue. Mais les spécialistes on va dire, interpellé pendant plusieurs années sur l'explication elle-même et la part de responsabilité que pouvait avoir la fonte de la neige dans la crue de 57. Mais enfin, grosso modo, on est quand même d'accord pour dire que. Voilà. Mais de fait, vous avez raison, toutes les grandes crues, dont 1920, se sont produites au mois de septembre, fin septembre.
Pour avoir vécu les inondations de 57, bon, j'étais jeune, mais je m'en rappelle très fort parce qu'on a été sinistrés. Je me souviens, il a plu pendant presque un mois et une pluie très chaude.
Eh oui.
Et quand on est maintenant les gens du pays, quand on sent une pluie chaude, au bout de 2 jours, on n'est pas tranquille. Parce que ce n'est pas une pluie
Bon, il a
sympathique.
plu longtemps, mais l'épisode pluviométrique, comme il était indiqué sur la carte tout à l'heure, il s'est produit du 12
Oui,
au
ça s'est
15-16
aggravé.
juin. Hein. Mais c'est vrai que les pluies répétitives ont préparé le terrain, hein, ça c'est sûr. Et chaude parce que,
Et
ben,
chaud, oui.
justement, c'est là ce que j'évoquais, c'est-à-dire que cette masse d'air chaud en remontant, arrivant du Piémont, monte sur les Alpes, et vous avez un effet de feu qui se produit, c'est-à-dire de réchauffement de l'air, et du coup, en 93, je me rappelle que l'isotherme 0 degré était à 4500 mètres d'altitude. Autrement dit, tous nos sommets, jusqu'au sommet de la Parachée ou de la Grande Casse, tout ça fondait et la pluie était chaude jusque là-haut. Bon, quand ça arrive en septembre, le fond de neige est moins concerné.
C'est ça qui était étonnant.
Voilà, c'est moins concerné. Mais voilà. Plus chaude, ok. Mais du côté piémontais, ils sont bien servis aussi. Hein, quand ils tombent chez nous 300 mm, de l'autre côté, ils en tombent 500 ou 600 hein, dans la montée de vers la crête frontière.
C'est la crue du Charmey de 1955. Elle était due, c'était au mois de juin aussi.
Oui.
Et elle a fait beaucoup de dégâts.
Ben, là, après, pour les torrents, on a des crues qui se sont produites, qui sont produites en liaison quand même avec des orages localisés. Parce que, là, si je me souviens bien, en 1955, ça a essentiellement concerné le Charmey, mais pas l'île Saint-Antoine qui n'est pas loin, ni je sais pas, la Valoirette. Donc il y a des orages localisés qui suffisent à déclencher des crues torrentielles en tel point et pas à côté.
Mais le Pousset, il n'y a pas longtemps, je crois que a débordé il y a à peu près un mois.
Ah ben, c'est sans arrêt. L'équipe des jeunes là, du SPL, nos jeunes ingénieurs, sont sans arrêt en train de regarder, de voir ce qu'il faut. Bon, bref, il y a le département qui surveille sa départementale. Mais là, on a le Pousset, le bassin versant, descend dans toute sa masse. Il suffit de... Il n'y a pas besoin de grosses pluies. Ça imbibe, surtout au printemps, imbibé par la fonte des neiges. Une petite pluie suffit à déclencher des laves torrentielles. Là, il s'en est produit 5 ou 6 à la suite. Donc, on a la pelle mécanique sur place, en permanence, pour déboucher à la fois le chenal du torrent et à la fois l'arc au besoin. D'ailleurs, si vous prenez la départementale, vous verrez qu'il y a un énorme tas de gros blocs à côté là, qui ont été extraits. Ça, c'est vraiment... Un monstre dont on ne sait pas que faire et qui finit par nous coûter cher. Alors on a fait une espèce de cagnotte dans laquelle participe le SPM, c'est sûr, mais aussi le département, EDF, l'autoroute, la voie ferrée. Bref, on essaye de taper dans tous les portefeuilles, dans tous les porte-monnaies pour... continuer la gestion de ce torrent, qui avait été classé série domaniale, hein, les RTM. Donc normalement, c'est la responsabilité de l'État. Mais les travaux qui avaient été engagés au début du siècle dans le bassin versant supérieur n'ont jamais pu être efficaces. C'est un peu comme dans le torrent de Solière.
La cascade Saint-Benoît qui est en photo là, est-ce que c'est une cascade naturelle ou artificielle qui fait suite au lac de Plan d'Aval et Plan d'Amont?
Ah non, elle est totalement naturelle.
Elle est naturelle.
Simplement, le débit de cette cascade est régulé par les deux barrages, par le barrage du Plan d'Aval et du Plan d'Amont. Hein, c'est-à-dire que c'est ce qui reste dans le torrent, le débit. On appelle résiduel ou débit réservé, enfin bon, ce qui reste dans le torrent après le passage dans les barrages. Et d'ailleurs, c'est un contrat, enfin un accord avec EDF, pour conserver, c'est plus qu'un accord, c'est une réglementation nationale, hein, pour qu'il y ait un débit minimum conservé à cette cascade, qui représente un beau site touristique qui a beaucoup de succès. Mais donc, évidemment, elle est naturelle. Ce qui est un peu artificiel, c'est la maîtrise du débit. Avant les barrages, elle devait être... Avant la construction des barrages de soie, elle devait être plus importante. Par exemple, au mois de juin, juillet. Voilà, encore. C'est bon.
Voilà, et puis, un grand, grand merci donc à M. Marnizy pour cette conférence passionnante. Voilà. Et ensuite, et ben, la semaine continue. Donc, demain, la visite, enfin, la sortie du parc national est complète. Le 23 juillet, vous avez donc à 9h, comme je vous disais tout à l'heure, une sortie donc, avec monsieur Lamy, donc, qui est agent, enfin, technicien intervenant du RTM, donc sur les torrents du Bay et des Salanches à Termignon. Voilà. Donc le rendez-vous est fixé à 9h à la place de la Vanoise, c'est sur inscription. Voilà. Et l'après-midi, donc, vous avez la visite de la microcentrale de Fourneau, pareil, donc sur inscription. Donc, si vous êtes ici donc, en vacances ou si vous êtes là, les programmes seront disponibles d'ici la fin de semaine dans les offices de tourisme. Voilà, programme écrit. Parce que donc, on a les programmes dématérialisés, mais ça pose un petit peu de problème. Donc, il y aura un programme papier dans les offices. Voilà. Merci.
Eh bien, bonsoir. Merci.